Bien, bonjour. Comme on vient de chanter en parlant de l'Éternel, le Dieu créateur de tout l'univers, de nous, bien, on a exprimé que lui seul est digne. Je ne sais même pas si vraiment on réalise ce que ça veut dire. Mais je pense qu'on a une occasion ce matin à nouveau de continuer à apprendre à connaître Dieu et afin de pouvoir mieux justement reconnaître combien qu'il est digne, combien est-ce qu'il est unique et sans pareil. Et qu'on puisse apprendre de plus en plus pour pouvoir l'adorer, le servir et chercher à vivre notre vie d'une manière qui va l'honorer. Dans les grandes choses, mais surtout dans les petites choses, parce que la plupart de nous, en tout cas, je ne sais pas pour vous, mais je vis des petites choses. Dans la simplicité de la vie. Alors, prenons le temps de nous courber. Je vais avoir un temps de silence et j'aimerais que chacun d'entre vous puissiez prier intérieurement puis exprimer à Dieu justement votre reconnaissance et en même temps votre désir d'apprendre à continuer à le connaître. Alors, prions. Seigneur grand Dieu, on veut te remercier pour qui tu es, de la manière aussi que tu t'es révélé dans la création, dans ta parole et surtout en ton Fils Jésus-Christ, qui s'est abaissé jusqu'à nous pour prendre sur lui le châtiment que l'on méritait. Afin que tu puisses nous offrir un pardon complet, un moyen d'être réconcilié avec toi. D'avoir le privilège et le droit de devenir des enfants d'adoption, tes enfants, faire partie de ta famille, dont nous faisons partie. De cette grande famille universelle, pour ceux qui ont placé leur foi, leur confiance, justement, dans la solution en ton Fils Jésus, que tu as gracieusement pourvu. Notre Dieu, que tu puisses continuer à nous accompagner par ton esprit, à apprendre ta parole, à saisir et à voir, ouvre nos yeux, notre entendement, afin de mieux saisir qui tu es, ce que tu as fait pour nous. Afin que ça puisse faire une différence dans chacune de nos vies. À la gloire de ton nom. Amen. Alors, ce matin, c'est la deuxième partie de ce qu'il y a deux semaines. C'est sur la création des anges. Et je vais faire une petite révision avant de poursuivre pour se remettre dans le contexte. Alors, ce qu'on a vu la dernière fois, c'est que la création des anges par Dieu révèle, on avait vu deux de ces points-là, deux et demi, si on peut dire, ou non, un et demi, ou presque, en tout cas. On avait vu que sa puissance, que la création des anges par Dieu révèle sa puissance et sa connaissance illimitée. Ensuite, sa sainteté et sa perfection, qu'on avait vu juste la moitié. Et ensuite, son droit absolu de propriétaire, son autorité absolue et son règne parfait, c'est ce que nous allons voir un peu plus tard ce matin. Dans la création des anges par Dieu, eh bien, je me répète là, mais c'est juste pour faire la suite, ça révèle sa puissance et sa connaissance illimitée. Et de ce fait, eh bien, puisque Dieu a créé tous les anges, cela signifie que Dieu est plus grand qu'eux. Les anges ou les esprits existent pour Dieu, puis c'est lui qu'il faut adorer et pas les anges ou les esprits. Ensuite, on a vu sur ce tableau, qui est à l'endos du feuillet, si vous en avez un, qu'est-ce qui distinguait Dieu de l'humanité et des anges? Et on voit que Dieu seul est tout-puissant et omniscient, parfait en sagesse, en connaissance et en compréhension. L'humanité a une connaissance limitée, acquise par expérience. Les anges ont une connaissance limitée, acquise en regardant Dieu à l'œuvre. Ensuite, on a au numéro 2, la création des anges par Dieu révèle sa sainteté, sa perfection. Et on a vu que face à cela, on dit les anges, la manière qu'ils réagissent face à ce Dieu saint, c'est qu'ils ils le bénissent et l'adorent, ils lui obéissent et font sa volonté. Alors, on s'était rendu là. Ça, c'est la première partie du deuxième point. Et on continue. Et ça, c'est, je l'avais pas traité la dernière fois. On poursuit avec ce qu'on va. Il n'est pas mention dans les Écritures d'un chérubin protecteur. Dieu, dans sa sainteté, a tout créé parfaitement. Dans Ézéchiel 28, que vous avez sur votre feuille, eh bien, il y a un court passage qui décrit quelqu'un de glorieux, mais il ne s'agit pas simplement d'un roi terrestre, même si, quand on commence à lire le chapitre, ça s'adresse au roi de Tyr. Mais en continuant, on voit qu'il y a comme une manière de superposition, puis ça ne pouvait pas décrire un être humain. Et on lit à partir dans ce passage-là, ça dit « Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui annonceras, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel, tu représentais la perfection, tu étais plein de sagesse, tu étais d'une beauté parfaite. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toutes sortes de pierres précieuses, de sardoines, de topazes, de diamants, de chrysolites, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude, ainsi que l'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu as été créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais installé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans ta conduite depuis le jour où tu as été créé. Qui est-ce que ce passage décrit? Eh bien, il parle d'un chérubin, d'un ange protecteur. Puis, comment est-il décrit? Si vous regardez le texte qu'on vient de lire, vous pouvez surligner les mots descriptifs de cet être qui a été créé, qui se trouvait, comme il était mentionné, en Éden, dans le jardin de Dieu. Alors, au verset 12, c'est dit, « Tu représentais la perfection. » Ensuite, encore au verset 12, « Plein de sagesse. » au verset 12, encore, d'une parfaite beauté. Et on saute au verset 14, un chérubin protecteur, c'est-à-dire mis à part par Dieu pour une tâche spéciale. Au verset 14, encore, installé sur la montagne, qui représente la présence de Dieu. Et au verset 15, il était intègre dans sa conduite. Est-ce qu'il est surprenant qu'un Dieu saint, parfait, puisse créer quelque chose de parfait? C'est-à-dire, s'il est parfait, comment est-ce qu'il pourrait créer quelque chose d'imparfait? Hein? Parce qu'aussitôt qu'il aurait créé quelque chose d'imparfait, ça indiquerait que il y a un manque chez lui. Et c'est aussi, on va dire, en voyant les Écritures, que tous les autres êtres qu'il a créés, les anges, ils étaient aussi parfaits. Ils étaient irréprochables dans leur apparence, leur caractère, leur façon de penser, leur attitude, leur travail, dans tous les aspects, tous les domaines. On voit aussi que Dieu a révélé sa sainteté et sa perfection dans la création des cieux et de la terre, de tout. Et il ne pouvait pas faire autrement que de créer tout ce que c'est qu'il a voulu d'une manière parfaite. Absolument parfait, sans défaut, sans manquement, sans lacune. Si Dieu n'était pas parfait, on se retrouverait avec un Dieu qui est limité. Un Dieu qu'on pourrait se questionner à savoir si véritablement il est véritablement Dieu. Serait-il Dieu s'il n'était pas parfait dans tous les domaines, dans tous les aspects? Alors, quand il a créé les êtres spirituels, les anges, les esprits, aucun d'entre eux n'était mauvais. Parce que Dieu est saint, il ne pouvait pas créer le mal, la méchanceté, l'imperfection. On peut se poser la question, mais alors, d'où viennent les mauvais esprits, les démons, le mal? Eh bien, si le Seigneur le permet, on va se pencher sur cette question-là, sur l'origine du mal à un moment donné. Ce qu'il faut retenir, c'est que au commencement, quand Dieu a créé, il n'y avait aucun mal. Pouvez-vous vous imaginer cela? Aucun mal. Même pas un minuscule point de poussière de mal. Et quand on regarde le monde aujourd'hui, quand on prend même le temps de se regarder, est-ce que nous, on fait tout à la perfection? On essaye, peut-être, mais ce qu'on considère être perfection, bien, C'est loin de l'être en réalité. Les habitants de ce monde, nous, sommes-nous saints, complets, parfaits, purs, mis à part, justes et saints dans toutes les actions, pensées et motifs? Est-ce qu'on peut atteindre la perfection de nous-mêmes? Eh bien, si on est honnête, on doit reconnaître tout simplement notre petitesse, notre fragilité, notre indignité devant un Dieu saint et parfait. Et laissé à nous-mêmes, on se retrouverait véritablement sans espoir. Sur le tableau, au dos de la feuille, on peut rajouter que, j'ai commencé à remplir, là, mais il y a un espace vide, c'est-à-dire, en parlant de Dieu qui est absolument saint, parfaitement juste, pur et équitable. Quand on considère l'humanité et les anges, d'autre part, comment s'ils se comparent à Dieu? Eh bien, l'humanité, contrairement à Dieu, est impure, injuste, imparfaite. Les anges ne sont aucunement comme Dieu. Ils sont complètement dans des catégories à part. Il y a un gouffre qui sépare Dieu le Créateur et sa création. Alors, c'est pour ça que la création des anges révèle révèle sa sainteté et sa perfection. Qu'est-ce que la pensée courante dans ce monde enseigne qui est contraire au concept d'un Dieu qui est le propriétaire absolu et le souverain parfait? Mais si on regarde dans le contexte des anges qu'il a créés, eh bien, je dirais que la plupart des gens, l'information ce qui leur trotte dans la tête concernant les anges, ils ont ramassé cette information-là à quel endroit? Probablement dans des films, même des dessins animés pour les enfants, peut-être des articles, des interviews auprès de l'un et de l'autre. Mais il y a très peu qui revient ou qui découle, qui ressort de ce que Dieu a révélé dans sa parole. Alors, dépendant de avec qui on parle ou qu'on écoute, eh bien, certains vont dire, bien, par rapport aux anges, on peut les prier pour obtenir leur protection ou leur ordonner de nous accorder des faveurs. Nous pouvons, d'une manière ou d'une autre, les déjouer, les tromper, les manipuler pour pouvoir tirer profit pour des avantages personnels. Ou on va à l'autre extrême. Les anges, on les voit là, on s'imagine un peu assis sur un nuage en train de jouer de la harpe là. Ou il y en a qui vont dire, mais le monde spirituel n'est pas réel, c'est pas vrai. C'est l'inventation des hommes, surtout des chefs religieux, pour faire peur au monde, pour les contrôler. Puis dans tout ça, bien, il y a l'idée que Dieu, non, Dieu, il ne peut pas être juste. Il ne peut pas être juste de me demander de lui obéir d'une manière complète et totale. Voyons, c'est pas juste. Et on pourrait en rajouter. Laissé à nous-mêmes, on peut s'imaginer toutes sortes de choses. Puis, la chose est, c'est que ce n'est que le fruit de notre imagination, de nos hypothèses, puis de nos idées. Puis, on voudrait prendre les choses puis les mettre, les façonner d'une manière pour être à l'aise avec, qui nous convient. Ça, c'est pas supposé être là. On l'a vu au début. Mais jamais, je pense que je t'avais dit que c'était bon, mais... là. C'est moi qui est lent dans mes affaires, en tout cas. Peut-être que je peux encore réveiller. En tout cas, excusez-moi. Ben, j'essaie de me repérer, là, puis... Non, trop loin. OK. OK, en tout cas, excusez-moi. C'est parce que j'avais fait un diaporama pour ce matin, puis je me suis mélangé à quelque part là-dedans. En tout cas, on continue. Le troisième, là, c'est que c'est la création des anges par Dieu révèle son droit absolu de propriétaire, son autorité absolue et son règne parfait. Alors, c'est des caractéristiques de Dieu qui sont pertinentes, qui sont importantes pour nous en tant que ses créatures, mais surtout en considérant les anges qu'il a créés. En tant que propriétaire, est-ce que Dieu n'a pas le droit de gouverner comme bon lui semble? Dans Colossiens 1,16, ça dit, « En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel » et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Ah, c'est ça. Ça, c'est le bon. Hey. Ouais, en tout cas. Merci. La technologie, c'est bon des fois, mais d'autres fois, c'est... Surtout quand il y a un être humain qui est comme moi, qui est entre les deux, là, ça peut compliquer les choses. En tout cas, alors, dans ce verset, Colossiens 1,16, Dieu révèle qu'il a créé toutes choses. Puis, dans le ciel et sur la terre, visible et invisible, trône, souveraineté, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Puis, soit qu'on dise « ça c'est vrai » ou de dire « j'ai un point d'interrogation, j'ai des doutes ». Okay? Mais en tout cas, c'est ce qu'il révèle. La propriété absolue de Dieu sur toute chose est aussi déclarée, hey, c'est bon, dans Romains 11, 36, « c'est de lui, par lui et pour lui » que sont toutes choses, à lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Alors, toutes choses ont été créées par et pour Dieu. On voit premièrement que la conception de toutes choses est venue de Dieu, uniquement à partir de sa sagesse et de sa connaissance. Ensuite, la création de toute chose s'est faite par l'intermédiaire de Dieu, uniquement par sa puissance et sa parole. Ensuite, le but de tout est pour Dieu, pour sa gloire, pour toujours. Et cela signifie que nous devons l'honorer, le révérer, l'adorer, lui obéir et le tenir en haute estime. Nous devons le glorifier. C'est là notre objectif, notre but. Que ce soit dans nos pensées, nos attitudes, notre comportement, nos agissements, notre service, le travail que l'on fait, les relations qu'on cherche à bâtir. Et c'est certainement la raison pourquoi il a créé les anges, pour qu'ils puissent être à son service et le glorifier. En tant que propriétaire, Dieu peut faire ce qu'il veut, selon ce qui lui plaît. Et c'est une bonne chose qu'il en est ainsi, parce que Dieu étant saint, étant parfait, ce qu'il fait va être saint et parfait. Et il a créé les anges justement pour être à son service. Et à quel endroit est-ce que Dieu règne? On a vu ça brièvement la dernière fois. Si on revient dans Apocalypse, l'apôtre Jean, sous l'inspiration de l'Esprit, dit « Je regardais et j'entendis la voix de nombreux anges rassemblés autour du trône, des êtres vivants et des anciens. Ils étaient des myriades de myriades et des milliers de milliers. » Alors, d'où viennent les ordres, les directives en lien avec les activités des anges? Bien, d'après ce qu'on voit, c'est que le quartier général d'où Dieu règne, où Dieu donne ses directives, c'est son trône au ciel. Alors, la création des cieux par Dieu révèle son autorité et son droit de propriété sur les cieux et aussi les anges. Pendant notre ministère avec Bonne Semence, pendant une vingtaine d'années environ, on a donné le cours « Long chemin d'Emmaüs », puis l'auteur John Cross partage dans ce livre-là, puis aussi dans qu'il se promenait à un moment donné dans un village tribal, éloigné de la civilisation, puis il arrive mais ça, c'est un modèle réduit, là, en tout cas, parce que c'est un peu long à traîner. Mais il arrive et dit, à qui appartient cet aviron? Okay. Bien, c'est à celui qui l'a fait, celui qui l'a fabriqué. Puis il a posé la même question concernant une pirogue. Bien, ça appartient à celui qui l'a fabriqué. Et il a posé la question, il dit, en parlant de l'aviron, il dit, est-ce que je peux la prendre puis la casser? Pas si tu veux avoir du trouble avec le propriétaire. Oui. Disons que j'avais fait cet aviron. Est-ce que, vous auriez le droit de la prendre puis de la casser. Pas à moins que je vous donne le droit de le faire. Ou que je vous la donne puis que vous vous la cassez, en tout cas. Quel qu'il en soit, c'est que c'est un peu le même concept ici, dans le sens que Dieu étant le propriétaire, lui a le droit sur sa création. Est-ce que le propriétaire de l'aviron pourrait la casser? S'il veut. Parce que pourquoi? Elle lui appartient. Il peut faire ce qu'il veut avec ce qui lui appartient. Et c'est la même chose pour Dieu. Dieu peut faire ce qu'il veut avec ce qui lui appartient. La manière que Dieu dirige est un peu différemment que ce qu'on connaît. Quels sont les types de gouvernements dans le monde actuel? Ben, on pourrait dire, bien, il y a des dictatures, des monarchies, du communisme, démocratie. Puis, dépendant où est-ce qu'on vit dans le monde, on n'a pas le choix. Okay? On vit ici au Canada dans une démocratie. En principe, la démocratie, c'est que ça nous permet une certaine liberté. On peut voter pour qui on veut avoir au pouvoir. On a la liberté, en principe, de religion jusqu'à temps qu'ils disent c'est limité. On a aussi des droits personnels. On a le droit d'acheter une propriété, d'avoir des biens. Ça appartient pas à l'État. Mais Dieu, quand que Dieu est appelé, il règne puis il gouverne, quelle sorte de régime avec lequel gouverne-t-il? Eh bien, Dieu étant reconnu comme, on dit, unique et sans pareil, saint, parfait, qu'il est propriétaire absolu, et il a autorité sur l'ensemble de sa création, dans les moindres détails. Pour lui, on pourrait dire, son règne, c'est une théocratie. Théo, c'est le mot grec pour Dieu. Alors, c'est Dieu qui règne. Dieu ne fonctionne pas sur une base démocratique. Quand que Dieu prend une décision, il ne rassemble pas ses anges et dit, OK, qui sont en faveur? Qui est contre? Qui s'abstient? Parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir l'opinion puis le conseil de qui que ce soit, parce qu'il est saint, il est parfait, et en lui-même, il est autosuffisant. Alors, de ce fait, les anges n'ont aucun droit de vote sur la manière que Dieu va gouverner l'univers. C'est dans ce sens-là que le règne de Dieu est absolu. Les anges appartiennent à Dieu et sont appelés à lui obéir, accomplir sa volonté, sans hésitation, ni discussion, ni négociation. Tous les anges existent pour Dieu. Et chacun d'eux doit rendre compte de ses actes à celui qui l'a créé. les caractéristiques du règne de Dieu. On a déjà vu que Dieu s'est révélé comme étant saint. Par conséquent, son règne est également saint, toujours complet, parfait, pur, mis à part juste et sacré. Il y a quelques versets qui décrivent le règne de Dieu, comme dans Luc 18, 7, dans la version Sommeur. Le règne de Dieu est toujours droit. Et dans Habacuc, son règne est toujours pur. Et dans Actes 17, 31, le règne de Dieu est toujours juste. Il n'y a pas d'erreur, de gaffe, de lacune dans le règne de Dieu. Parce que le règne de Dieu est toujours conforme, parfaitement conforme à son caractère, à ce qu'il est en tant qu'être. Puis c'est toujours en fonction de sa gloire à lui. Ça c'est juste à côté de Dieu sur le tableau en landau. Puis on voit les caractéristiques de Dieu. Que Dieu est éternel, sans commencement ni fin, est tout puissant et existe par lui-même, n'a besoin de rien. Dieu est l'Esprit suprême ayant une gloire inhérente. Dieu est partout présent à la fois. Dieu, c'est un. Une trinité, Père, Fils, Saint-Esprit, trois personnes en un être. Dieu est omniscient, parfait, en sagesse, quoi. J'ai la feuille, elle n'est pas remplie. Absolument, c'est quoi? C'est parce que mes yeux ne sont pas assez bons. OK. Ils sont là. OK, c'est bon. Parce que vous l'avez dit, je n'étais pas réveillé. Alors, créateur, propriétaire. C'est parce que ça s'en vient. OK. En tout cas, c'est juste pour démontrer, saisir les caractéristiques de Dieu, qui il est. Et c'est ainsi qu'il se révèle dans sa parole. En considérant ces vérités sur la personne de Dieu, quand on s'y arrête, puis qu'on réfléchit, puis qu'on essaie de saisir, est-ce que ça nous amène à ajuster notre pensée par rapport à qui Dieu est et à notre vision du monde, de la manière qu'on va vivre notre vie? Est-ce que ces vérités que Dieu révèle sont difficiles à accepter? À vraiment reconnaître comme étant véridiques, qui sont pertinentes pour nous. Alors Dieu, et là c'est sur le dernier point sur le au bois du tableau que vous avez là. Alors Dieu, c'est le créateur, le propriétaire absolu, le souverain parfait et juge de tout. Puis l'humanité et les anges existent selon son bon plaisir, selon le dessein de Dieu pour ses objectifs et sa gloire à lui. Et la création des anges par Dieu révèle son droit de propriétaire absolu, son autorité absolue et son règne parfait. Alors, ce qu'on a vu sous le titre « La création des anges », c'est ces trois points ici qu'on répète, que je répète. La création des anges par Dieu révèle sa puissance et sa connaissance illimitée, sa sainteté et sa perfection, son droit de propriétaire absolu, son autorité absolue et son règne parfait. Est-ce que ces vérités rentrent en conflit avec le Dieu que je m'étais fait dans le passé? Eh bien, si on veut être fidèle à ce que tu sais que Dieu révèle de lui-même, on doit ajuster avec son aide notre pensée pour correspondre à la sienne, ce qu'il a révélé. Alors, quand on regarde l'ensemble, puissions-nous reconnaître que Dieu est vraiment unique et sans pareil. Il n'est pas du tout comme nous, les êtres humains qu'il a créés, ni les anges. Et les vérités qu'on peut entretenir ou que le monde entretient, qui essaie de nous véhiculer, eh bien souvent cloche avec ce que Dieu a révélé de lui-même. Assurons-nous d'aligner nos pensées avec ce que Dieu a révélé, avec sa parole. Et si on veut se permettre de mélanger nos idées avec ce qu'il a révélé de lui-même, on se retrouve dans un sens à rabaisser Dieu à notre niveau puis le déshonorer parce qu'on lui dit « Oui, je suis prêt à accepter ce que tu dis, mais moi, je vais rajouter une couple de choses qui vont me convenir, qui vont faire mon affaire. » Dieu, il veut qu'on mette de côté ce qui ne vient pas de lui. Il veut qu'on se concentre sur ce que lui a révélé. Quelle vérité retenez-vous de ce que nous venons de voir dans la parole de Dieu? De ce que, pas juste aujourd'hui, mais jusqu'à date, les vérités qu'il a révélées, c'est pour nous amener à nous concentrer sur ce que lui a dit, d'examiner nos cœurs, nos pensées. Quelle différence est-ce que cela devrait faire dans ma vie, dans ta vie? Ce petit livret, « Dieu, qui est-il? » Eh bien, quand on a montré la série Tétélestai, c'est un des petits le petit livret que plusieurs d'entre vous avez. Et si vous ne l'avez pas, bien, vous pouvez m'en demander, je vais essayer de vous en trouver un. On en a quelques-uns. Mais juste si vous ne l'avez pas. Si vous voulez l'avoir, une deuxième, troisième copie, mais je vais vous dire où vous pouvez le commander. Mais c'est que dans ce petit livret, bien, ça fait un résumé de Tétélestai, mais aussi de cette série que je suis en train de faire avec vous. Puis, c'est un bon moyen de reviser, de réexaminer, puis même de partager avec d'autres ce que vous avez appris, ce que vous apprenez. Parce que plus qu'on va tremper dans ce que c'est que Dieu a révélé de lui-même, mieux ça va coller dans notre esprit, dans notre compréhension, et avoir un impact dans notre vie par l'Esprit de Dieu. Alors, prions. Père éternel, on veut te bénir et vraiment te remercier que tu nous as fait grâce de t'être révélé. comme étant justement le créateur, mais aussi le propriétaire. Et que tu as tous les droits sur ta création, incluant nous. Que l'on puisse reconnaître que si nous avons le souffle de vie, si nous sommes ici ce matin et qu'on vit, eh bien, c'est parce que tu le permets. Puis aussi, c'est que dans l'ensemble de ton plan, tu désirais justement qu'on soit réconcilié avec toi. Parce que tu ne voulais pas nous laisser à notre perdition, à être séparés de toi pour toujours. Et merci que tu as fourni en ton Fils Jésus le moyen justement de passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Et tu invites chaque personne à te faire confiance à ton Fils. Pas juste pour avoir un billet pour le ciel, mais aussi pour avoir une relation personnelle, intime avec toi, de jour en jour, par l'entremise de la foi. Comme ta parole dit, le juste vivra par la foi. Alors nous faisons appel à toi, notre Dieu, de nous aider, de saisir, de comprendre, d'apprécier, de t'adorer, de te servir d'une manière qui va te glorifier. Par Jésus-Christ. Amen.